This is Radio Free Europe.
Minutos en Colombia.
Radio Dacha. France Inter. Le 18-20.
Le 18-20 ce soir en Israël, au sud du Niger, en Italie, ce sera ailleurs dans le monde, le journal de l'international d'Olivier Poujade. Cinéma, Corinne Pellissier viendra nous parler du dernier film de Martin Scorsese. 18h55, l'édito de Vincent Giray du quotidien Le Monde sur une simulation de cyberattaque grandeur nature. Tout de suite, le Liban et ses voisins.
Nicolas Demorand, un jour dans le monde.
Le Liban en première ligne dans la crise des réfugiés syriens. Ils sont sans doute 1 million dans un pays de 6 millions d'habitants au maximum. Le président libanais, faisant écho à une proposition de campagne de Donald Trump, a demandé à ce que des zones réservées aux réfugiés soient établies en Syrie même, pour soulager son pays, le Liban. C'est une première. Bonsoir Antoine Basbous.
Bonsoir.
Politologue spécialiste du monde arabe. Dans quelle situation la crise des réfugiés place aujourd'hui le Liban ?
Les réfugiés syriens sont à peu près 1,5 million sur une population de 4,5 millions d'habitants, dont 500 000 réfugiés palestiniens qui sont arrivés là avec la création d'Israël en 48, puis les crises jordaniennes et dans d'autres pays. Donc le Liban ploie sous le poids de ces réfugiés, alors qu'il n'a pas les infrastructures pour déjà les seuls Libanais. Infrastructures routières, autoroutières, électricité, eau, assainissement, école et tout le reste. Mmh. Il y a par an à peu près quelques 40 000 naissances. Qui va les enregistrer ? Où vont les enfants nouvellement arrivés ou les scolariser ? Donc tout ça est en manque au Liban. Si par exemple le chantage de la Turquie a permis à Ankara d'empocher à peu près 6 milliards d'euros, le Liban n'a pas les moyens de faire de chantage, c'est pas forcément sa vocation, et du coup il est là pour supporter à lui seul quasiment le poids de ses réfugiés.
Vous dites que le pays est en train de ployer à cause de cette crise, de ployer ou de rompre ?
Je crois que après avoir ployé durement, il rompra, parce que ces gens sont logés dans des conditions inhumaines et ils peuvent aussi se révolter, ce qui serait, je veux dire, humain, pour leurs conditions inacceptables de réfugiés. Mais cela dit, ce que dit le président libanais, c'est un vœu pieux, parce que ce n'est pas un pays victime de tous ses voisinages, qui n'a pas vraiment des forces de sécurité. Parce que, par exemple, la Turquie, quand les réfugiés arrivent, ils sont structurés dans des camps, on ne peut pas sortir sans autorisation. En Jordanie, c'est la même chose. Au Liban, les réfugiés syriens sont là, éparpillés partout. Il n'y a aucun ordre pour les tenir et les maintenir et les structurer. Donc, le gouvernement libanais n'a pas beaucoup de moyens pour agir et réagir.
Et il n'y a pas une aide humanitaire d'urgence internationale, comme on a pu l'avoir, vous le disiez, en Turquie ?
Il y a des pays qui sont les parents pauvres de l'aide internationale, comme la Jordanie, comme le Kurdistan irakien, comme le Liban. En revanche, il y a des pays qui sont largement dotés, comme la Turquie, parce que la Turquie dispose des vannes de l'émigration vers l'Europe et utilise cet instrument pour se faire, aider à soutenir les 3 millions quand même de réfugiés syriens. Il faut dire quand même quelque chose d'important sur le sujet. Il y a une stratégie derrière cette crise migratoire syrienne. Le président Assad a dû se dire avec les Iraniens qu'il y a trop de sunnites en Syrie pour pouvoir la gouverner longtemps. Et on se constate quoi ? Que la moitié des Syriens sont déjà en dehors de leurs frontières. Et cette moitié de Syriens, elle est constituée de quel type de Syriens ? Ce sont quasi totalement des sunnites. Donc, la stratégie, c'est d'alléger le poids des sunnites en Syrie pour pouvoir mieux gouverner et sur le long terme cette Syrie. Et d'ailleurs, quand par exemple, il a fallu construire une continuité territoriale entre l'Alaouistan et Damas. Et quand, par exemple, les troupes d'Assad rentrent dans une ville comme Homs, première chose que ces troupes font, c'est de brûler le cadastre. Pourquoi ? C'est parce que cette ville est majoritairement sunnite et que dans une décennie ou deux, si quelqu'un revient pour dire « c'est la maison de mes grands-parents ou de mes parents, on va lui dire, mais monsieur, prouvez-le. Ça, ça n'a jamais été ainsi. Donc, il y a une stratégie de nettoyage communautaire, une stratégie qui veut vider la Syrie d'une partie, large partie de ses sunnites pour un rééquilibrage démographique.
On a vu, Antoine Bazbouz, donc, qu'il y a une crise humanitaire, une crise technique, comment organiser le flux de réfugiés qui se trouvent sur le sol libanais. Est-ce que cette crise-là ouvre ou peut ouvrir sur une crise politique? Est-ce que ça déstabilise politiquement le pays ou pas?
Pour l'instant, c'est contenu. Parce que pour l'instant, le pays est en grande tension et que la réalité du pouvoir, elle est entre les mains du Hezbollah. Et le Hezbollah fait peur à ses réfugiés. Il a été responsable de leur évacuation vers le Liban parce qu'il a fallu nettoyer des zones frontalières, chasser les sunnites de cette zone de sorte qu'il y ait une continuité territoriale entre le déploiement des zones chiites au Liban et des zones alaouites en Syrie. Donc, quelque part, ils sont encore terrorisés par ce phénomène et, pour l'instant, ils ne réagissent pas.
Que reste-t-il de la puissance ou de l'influence libanaise dans la région, Antoine Bazbouz?
Oh, elle s'est évaporée au fil des ans. Même aujourd'hui, la présence et la puissance culturelle du Liban n'est plus actée. Je dirais même la vocation touristique de ce pays n'est plus à l'ordre du jour. Les pays du Golfe ont, depuis maintenant plus d'un an, interdit à leurs ressortissants de venir se reposer, de prendre l'air au Liban. Et aujourd'hui même, un ministre saoudien vient de dire que les autorisations vont être rétablies ainsi que les vols. Donc le Liban n'a plus le rayonnement qu'il avait auparavant. Il a été le théâtre de tous les conflits régionaux, surtout deux particulièrement qui opposent l'Iran à l'Arabie. Les djihadistes chiites de l'Iran et les djihadistes sunnites qui se réfèrent au wahhabisme saoudien.
Est-ce que le pays est sorti de la crise politique endémique qu'il a traversée ou est-ce que les récents événements, les futures élections ne sont que des rafistolages?
Écoutez, la réalité du pays fait qu'aujourd'hui tout est structuré autour du Hezbollah Land, c'est-à-dire ce parti-là. Il faut rappeler, dont la création a été actée par un décret signé de la main de l'imam Khomeini, dans une banlieue de Téhéran. Et c'est ce que raconte le cheikh Naïm Qassim, qui est le numéro 2 du Hezbollah, qui était présent à cette réunion. Il a fait un livre là-dessus. L'actuel chef du Hezbollah, c'est-à-dire Hassan Nasrallah, dit et répète à la télévision de la façon la plus solennelle. Il dit « Je suis un soldat dans l'armée de Wali al-Faqih ». Qui est Wali al-Faqih? C'est-à-dire, c'est le guide de la révolution iranienne. Et voilà cet archipel chiite arabe aux portes d'Israël sur la Méditerranée qui est dans une brigade dans l'armée perse iranienne de Téhéran. C'est ça le grand paradoxe. Aujourd'hui, après une trentaine d'années, l'investissement iranien au Liban a pu produire cet archipel puissant qui décide de la paix, de la guerre, que ce soit avec Israël, que ce soit avec la Syrie. Et c'est ce Hezbollah-là, quand le soldat Assad était en grande difficulté, qui a été dépêché sur instruction de Téhéran pour aller sauver ce soldat en perte de vitesse.
Donc la vie politique libanaise n'est qu'un théâtre d'ombre, Antoine Bazbouz?
Oui, il y a une vitrine dans laquelle les marionnettes bougent. Et même quand on voit aujourd'hui le Premier ministre Hariri, qui revient au gouvernement et qui se renie en quelque sorte, c'est-à-dire il a capitulé parce que le rapport de force régional, ses difficultés financières en Arabie et au Liban, ont fait que pour survivre, il a dû passer sous les fourches caudines du Hezbollah. Et il nomme au ministère de la Justice l'avocat des assassins de son père, c'est-à-dire ceux qui sont accusés de cet assassinat, membres du Hezbollah. Il nomme au ministère de la Défense, ministère de Souveraineté, un homme qui a toujours été très proche de la Syrie. C'est la capitulation. Le Liban, quand on le regarde avec un vrai zoom, on découvre que c'est le Hezbollah Land et qu'il y a des acteurs qui sont là, qui occupent la vitrine, mais qui n'ont pas une réelle efficacité, une réelle portée.
Comment le pays gère la menace militaire dont on voit que dans la région, la guerre déstabilise totalement les équilibres anciens, voire les structures fondamentales des États. Cet écho-là joue comment au Liban?
Pour l'instant, les Hezbollah sont l'armée, le bras armé d'Assad en Syrie. Ils laissent de côté le front israélien parce qu'ils ne peuvent pas jouer sur les deux fronts, tout en gardant la voix haute par rapport à Israël. Et en même temps, ils ont perdu plus de miliciens en Syrie que face à Israël. Et avec cette structure extrêmement présente au Liban, en Syrie et dans la région, eh bien les autres se couchent un peu. Il y a une sorte de victoire iranienne à l'échelle régionale qui a fait que le Hezbollah devienne une puissance méditerranéenne qui décide de tout au Liban et au-delà du Liban, qui a été un acteur fondamental dans le succès à Alep, qui a fait une parade militaire à Qusayr en Syrie à une semaine de la fête de l'indépendance du Liban, une grande parade, et deux semaines après l'élection du nouveau président de la République au Liban.
Comment se pose le défi du terrorisme au pays?
Comme le Hezbollah contrôle totalement tout ce qui est sécuritaire et militaire, il a les manettes, il les écoute, tout est contrôlé, les entrées dans le pays, les sorties. Mais en même temps, il y a des vocations djihadistes chez les Libanais qui se rendent en Syrie, en Irak, et qui tentent de revenir. Mais là, l'appareil sécuritaire du Hezbollah, sauf à quelques exceptions près, et c'est arrivé assez souvent, maintient une certaine forme d'ordre.
Quelle peut être la relation entre le Liban et la future politique étrangère de Donald Trump? Est-ce que les deux pays peuvent se rencontrer? On a vu, grâce à notre correspondant Omar Waman, correspondant à Beyrouth, que la presse libanaise s'inquiétait des premiers gestes de l'administration Trump. Qu'en est-il sur le fond?
Écoutez, le président américain, il gesticule beaucoup. Et est-ce qu'il va produire, est-ce qu'il va pouvoir tenir ses promesses extraordinairement contradictoires? J'en doute. Mais le bras de fer qu'il a engagé avec l'Iran, eh bien, il peut se traduire au Liban. Rappelez-vous, en 1983, ce bras de fer a donné lieu au plus grand attentat anti-américain depuis le Vietnam. 241 soldats tués avec une seule explosion à l'aéroport international de Beyrouth en octobre 83. Aujourd'hui, les Iraniens sont soumis à ce test. Ils peuvent répliquer en Irak, où se trouvent à peu près 7000 soldats américains et conseillers américains qui sont engagés contre Daesh. Ils peuvent répliquer dans un état mou au Liban, où la sécurité est entre les mains d'un allié, d'un agent de l'Iran au pays du Cèdre. Donc, c'est assez inquiétant, ça peut déstabiliser le Liban avec ce bras de fer entre l'Iran et Washington.
Merci Antoine Basbous. Je rappelle que vous êtes politologue spécialiste du monde arabe. Vous êtes né également au Liban.
Hein? Absolument.
Donc vous êtes franco-libanais, vous parliez aussi d'une partie de votre vie. Merci encore d'avoir été au micro d'Inter. Dans quelques instants, le journal de l'International, ailleurs dans le monde avec Olivier Poujade. Et tout de suite, The Scissors sur Inter. Jerk It Out.
Yeah.
18h34. Merci d'écouter Inter ailleurs dans le monde.
20 horas, 4 minutos.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Olivier Poujade, bonsoir.
Bonsoir Nicolas.
La voie est libre, Olivier, pour les colons en Israël.
Une épaisse ligne rouge vient d'être franchie selon le coordinateur des Nations Unies pour le processus de paix, ligne franchie par le Parlement israélien cette nuit. La Knesset vient d'approuver une loi inédite. Bonsoir Étienne Monin.
Bonsoir Olivier.
Loi autorisant l'État à s'approprier des centaines d'hectares en Cisjordanie. Autrement dit, la colonisation devient parfaitement légale.
L'image utilisée par les ONG sur place, c'est celle du blanchiment des milliers de maisons construites illégalement il y a plusieurs dizaines d'années sur des terres privées palestiniennes qui réintègrent avec cette loi la rive du droit israélien à l'abri des arrêtés de la Cour suprême en échange de compensation. C'est une victoire importante des partisans de la colonisation, un retour à la loi, estime Aaron Katzov, installé dans la colonie sauvage de Esh Kodesh en Cisjordanie occupée.
C'est du jamais vu. Parce qu'une terre est peut-être enregistrée sous le nom de quelqu'un que vous ne connaissez pas, on vient et on détruit des maisons. On jette des familles à la rue. Ça n'arrive nulle part ailleurs dans le monde. Et il était temps qu'une loi passe enfin pour protéger les droits des personnes qui vivent sur leur terre.
Voilà, cette loi arrive quelques semaines après le départ de Barack Obama qui a joué, on s'en rend compte maintenant, pendant des années, un rôle important de digue. Le premier ministre israélien n'a pas résisté à la pression des partisans de la colonisation. C'est un moment de vérité, estime Dror Etkes, qui a travaillé pour plusieurs ONG sur le sujet de la colonisation.
Make a choice where you are. Il faut se situer maintenant. Il faut arrêter de prétendre que ce vol de terre s'est fait par erreur ou par accident. C'était une politique systématique, programmée et clandestine. Et maintenant, il faut en payer le prix. Soit c'est un prix intérieur, tu démantèles les maisons et tu expliques aux colons comment tu les as autorisés à s'installer, et tu payes, tu régularises, et tu vas expliquer ce que tu es en train de faire devant la Cour de justice pénale internationale de l'AE.
Et ce texte pourrait tout de même rester déclaratif. L'avocat du gouvernement considère qu'il heurte les standards du droit israélien et international. Il pourrait être censuré par la Cour suprême qui se trouverait alors en situation d'être le dernier recours pour la gauche ou le dernier obstacle pour la coalition.
Étienne Monin, correspondant de France Inter à Jérusalem.
Et notre long format consacré ce soir, Olivier, au Niger sous la menace de Boko Haram.
Le Nigeria, le Cameroun, le Tchad et depuis quelque temps le sud du Niger. Nicolas est sérieusement touché par les attaques de la secte islamiste, tirs d'obus, sabotage, attentats, suicides, des agressions quotidiennes. Bonsoir Thibault Lefebvre.
Bonsoir Olivier.
Vous êtes parti Thibault en reportage dans la région de Diffa, c'est donc au sud du pays, région totalement déstabilisé depuis 2 ans par ces violences.
600 000 habitants et plus de la moitié de ces habitants sont des réfugiés ou des déplacés. 300 000 Nigérians ou Nigériens obligés de fuir leur village après avoir subi des attaques d'une violence inouïe. C'est le cas de Mustapha, costume marron, lunettes noires, des yeux rougis. Cet enseignant d'un peu moins de 50 ans a subi un des assauts les plus meurtriers des 12 derniers mois. Fin mai, une quarantaine de combattants de Boko Haram entrent dans son village de Yébi. C'est à quelques kilomètres du lac Tchad.
Ils attaquent pendant la nuit. C'était vers 11h, lorsqu'ils sentent que le village est endormi. Dès qu'ils rentrent, ils vont sonner. C'est-à-dire qu'ils vont alerter la population en disant qu'ils sont là. Donc, ils tirent et accompagnés de leur Allahu Akbar. Dès qu'on sent cela, on sait que c'est les Boko Haram qui sont présents. Et chacun de son côté se précipite pour courir. Tu laisses ta famille, tu cours. Tu laisses ton enfant, tu cours. Ils ont incendié le village et tout le village est en feu devant moi. J'ai vu pas mal de gens qui sont brûlés vifs. J'ai vu des enfants aussi qui sont jetés dans des centres. Donc ils sont aussi brûlés. Ça, j'ai vécu à Yébi.
Une trentaine de civils morts à Yébi, 15 fois plus de décès, de disparitions ou d'enlèvements depuis 2 ans dans la région. La pression de Boko Haram est constante avec en moyenne une dizaine d'attaques par mois et des réfugiés toujours sur les routes.
Thibault, on part maintenant donc vers l'ouest, direction que prennent justement ces dizaines de milliers de réfugiés, de déplacés, disséminés sur une centaine de sites sauvages en bordure de l'unique route goudronnée de la région.
C'est ça. C'est une des particularités. À Diffa, plus de 90% des populations qui fuient Boko Haram ont installé leurs abris de fortune sur ces sites improvisés. Très loin donc des 2 camps officiels mis en place par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. La raison est économique, mais surtout sécuritaire. sécuritaire. C'est l'avis de Benoît Moreno, il est chargé des relations extérieures pour le HCR.
C'est un endroit qui peut permettre une intervention rapide des forces de sécurité s'il y a une attaque. C'est un endroit qui est plus accessible pour les humanitaires. Et à côté de ça, il y a l'espoir aussi de pouvoir rentrer rapidement, donc de ne pas trop s'éloigner de la maison, mais aussi des zones fertiles. Donc l'attrait pour le camp est faible. Les camps ne sont pas une solution viable. Vous montez un camp, vous ne savez jamais quand est-ce que le camp va le démonter. Donc on s'efforce avec le gouvernement du Niger de trouver des solutions pour permettre aux gens de s'installer en dehors du camp. On est dans une situation où c'est maintenant qu'il faut investir. Parce que les gens ne vont pas forcément en revenir. Les personnes ont choisi de s'installer le long de la route pour leur sécurité. Il faut accompagner ça.
Alors le Niger, Thibault, cherche à stabiliser la situation sur le plan humanitaire, on l'a compris, mais aussi et surtout sur le plan politique.
Depuis 2 ans, 750 soldats nigériens assurent la sécurité des populations dans la région. Le problème, c'est qu'un peu moins de la moitié ont été récemment redéployés à la frontière du Mali, donc plus au nord, où les milices islamistes sont de plus en plus menaçantes. Les forces manquent désormais à Difa et il faut donc trouver rapidement une solution de sortie de crise. Cette solution pour le gouvernement du Niger, eh bien c'est un programme d'amnistie destiné aux combattants de Boko Haram. Le marché est très clair, la reddition contre la liberté. Hassan Ardo Ido est le secrétaire général de la République à Difa.
Nous leur garantissons la sécurité. Donc s'ils se rendent, il n'y a plus de raison de les combattre. Il y a des activités qui sont prévues de déradicalisation, de rééducation, de formation professionnelle et de réinsertion dans la vie socio-économique. Ce sont tous des jeunes égarés qui ont été trompés. D'abord, qui n'ont même pas beaucoup de notions sur le plan religieux. On pense que nous, on peut les récupérer. Dans la mesure où ils viennent se rendre, si vous avez 400, 500, 1000, 2000, 3000 combattants qui reviennent, qu'est-ce qu'il faut en faire? On n'a pas ouvert une prison pour mettre 3000 personnes.
Une cinquantaine de combattants de Boko Haram ont pour le moment accepté de se rendre. Selon les estimations des forces internationales, ils seraient entre 5 et 7 000 répartis autour du lac Tchad.
Reportage au sud du Niger, signé Thibaut Lefebvre. Merci à vous, Thibaut.
Attention, événement, ouverture ce soir, Olivier, en Italie, du Festival de San Remo, le 67e du nom.
C'est le grand concours de la chanson italienne, Nicolas. Le carton d'Audimat est assuré et peut-être encore plus cette année. Les organisateurs ont décidé de rendre hommage à un certain Luigi Tenco, très connu là-bas, un peu moins ici, en Italie. Le souvenir de son suicide, il y a 50 ans, après une prestation ratée, reste très ancré dans les mémoires. Bonsoir, Mathilde Imberti.
Bonsoir à tous.
Correspondante de France Inter en Italie, qui était Luigi Tenco, Mathilde?
Alors Olivier, précisons-le d'emblée, Luigi Tenco était l'amant de Dalida. Le couple magnifique débarque en San Remo en 1967. Lui, à 28 ans, il démarre, elle est déjà une star. San Remo est alors un must, une vitrine sans égale pour les chanteurs. Ils interprètent sur scène Ciao, Amore, Ciao. Mais c'est un flop, le duo est éliminé du concours. Et c'est une claque pour Luigi Tenco, raconte le critique musical John Vignola, le monsieur musique de la RAI.
Nous sommes en janvier 1967. Luigi Tenco n'a pas encore atteint le grand succès. Il n'a pas la formation classique des chanteurs, compositeurs et il a d'autres horizons. Il débat longuement avec sa maison de disques sur l'opportunité de se présenter à San Remo. Finalement, il accepte d'y aller pour élargir son public. À l'époque, il entretient cette liaison avec Dalida amplement commentée et il décide de présenter au concours une chanson à laquelle il a durement travaillé. Ciao, Amore, Ciao. Elle est réécrite plusieurs fois. Et ce soir-là, Tenco l'interprète mal. Peut-être parce qu'il n'est pas très sobre quand il monte sur scène. Quoi qu'il en soit, moi je n'étais pas dans cette chambre et personne ne l'était. Tenco s'enlève la vie dans des circonstances troubles. On ne saura jamais la vérité. Mais peut-être qu'il ne se serait pas suicidé s'il n'avait pas été dans un état second cette nuit-là.
Un mois après le suicide de son amant, Dalida voudra elle aussi mettre fin à ses jours, sa première tentative.
Et 50 ans plus tard, le suicide de Luigi Tenco fait encore débat en Italie, Mathilde.
Oui, parce qu'un certain nombre d'éléments troublants entourent cette mort. La balle n'a pas été retrouvée, elle a été tirée côté gauche alors que Tenco était droitier. Une expertise récente en 2006 a conclu une nouvelle fois au suicide. Mais l'un des biographes de Luigi Tenco, le journaliste Aldo Colonna, soutient la thèse de l'homicide. Tenco aurait été tué selon lui parce qu'il en savait trop sur les coulisses de Sanremo.
Luigi Tenco est persuadé cette année-là de remporter le concours de Sanremo. Il dit à tout le monde, ce morceau est un table et en plus, chanté par Dalida, ça ne fait pas un pli. Mais il se heurte à Dalida qui lui explique qu'ils ne peuvent pas gagner, car tout est truqué, joué d'avance. Alors le monde de Luigi Tenco s'écroule, puis il comprend qui tire les ficelles et menace de tout révéler lors d'une conférence de presse. Alors soyons clairs, Dalida ne savait pas qu'il allait être tué, mais elle était au courant des manipulations de San Remo.
Quand Tenco se suicide en 1967, l'Italie est secouée, mais San Remo se poursuit. 50 ans après sa mort, ce soir, en ouverture de la 67e édition, le festival rendra hommage à Luigi Tenco. Tiziano Ferro, un des chanteurs en vogue en Italie, reprendra l'une de ses plus belles chansons, « Mi sono innamorato di te ».
Perché non avevo niente da fare.
Sanremo, c'est parti pour 5 soirées de musique italienne. Coup d'envoi dans 2 petites heures sur la RAI.
Merci à vous Mathilde Imberti pour ce magnifique reportage.
Et on file Olivier aux États-Unis. Quelques mots sur la brouille entre Donald Trump et la presse, Olivier.
Don't be rude. Attacking us. Can you give us a question?
Don't. I'm not going to give you a question.
Can you stay categorical?
You are fake news. You are fake news. You are fake news.
Vraie ou fausse information, c'est désormais le président américain qui fixe les règles, Nicolas. Il accusait hier les médias européens de ne pas couvrir volontairement certaines attaques terroristes. La Maison-Blanche publie dans ce sens aujourd'hui une liste de 78 attentats sur le territoire européen, exécutés ou inspirés selon elle par Daesh. Liste reprise cet après-midi par le site des décodeurs du Monde qui souligne l'amalgame entre attentats et incidents mineurs faits par Donald Trump et démontre que tous ont bien été couvert par la presse, mais c'est fait, Donald Trump continue de semer le doute.
J'imagine pour justifier le décret Olivier anti-immigration.
Oui, mais les jugements violents et souvent définitifs de Donald Trump engendrent aussi des ripostes tout aussi agressives aux États-Unis. Exemple, le piratage ce week-end de plusieurs radios locales américaines par les rappeurs YG et Nipsey Hussle pour délivrer ce message assez explicite à l'écart du nouveau président.
Fuck Donald Trump, yeah, nigga, fuck Donald Trump, yeah, yeah, fuck Donald Trump, yeah, fuck Donald Trump, yeah, fuck Donald Trump, yeah, nigga, fuck Donald Trump, yeah, yeah, fuck Donald Trump, yeah. I like white folks, but I don't like you. All the niggas in the hood wanna fight you. Surprise El Chapo ain't tried to snipe you. Surprise the Nation of Islam ain't tried to find you. Have a rally out LA, we gon' fuck it up. Home of the ride and the king ride, we don't give a fuck. Black students ejected from your rally, what? I'm ready to go right now, your racist ass did too much. I'm about to turn Black Panther. Don't let Donald Trump win, that nigga cancer. He too rich, he ain't got the answers. He can't make decisions for this country, he gon' crash us. No, we can't be a slave for him. He got me appreciating Obama way more. Hey, Donald, and everyone that follows, you gave us your reason to be president, but we hate so Donald Trump.
Voilà Nicolas, la pratique est assez violente, le piratage de dizaines de radios locales américaines, le message assez grossier et absolument pas destiné à apaiser les tensions entre les pros et les anti-Trump.
Olivier Poujade, merci.
Un jour dans le monde, sur France Inter.
Et c'est ce qu'on appelle une œuvre longuement méditée, 30 ans quasiment qu'il cherchait à adapter le roman du japonais Shusaku Endo, Silence, paru en 1966. Martin Scorsese sort aujourd'hui sur les écrans son nouveau film du même nom, Silence, une réflexion sur la foi qui met en scène le destin cruel de deux jeunes missionnaires portugais confrontés à l'enfer de la torture. Corinne Pellissier, bonsoir.
Bonsoir.
Le réalisateur Scorsese initie son film sans doute le plus personnel après la dernière tentation du Christ en 88, Kundun en 97. Scorsese a semble-t-il trouvé sa définition de la foi.
La quête pratiquement de toute une vie, cela fait des années que Martin Scorsese, élevé dans une famille très catholique, s'interroge sur le sens de la religion, le silence de Dieu face aux horreurs du monde perpétrées en son nom. L'histoire se déroule ici dans le Japon du XVIIe siècle, au temps des missionnaires, deux jésuites portugais, Andrew Garfield dans le rôle du père Sébastien Rodriguez et son comparse Adam Driver sont mandatés pour retrouver la traces de leur mentor, le père Ferreira, soupçonné d'avoir publiquement renié sa foi. Récit basé sur la grande période de persécution des chrétiens au Japon. Martin Scorsese cherchait à adapter le roman de Shuseko Endo depuis presque 30 ans, avec en boucle le même questionnement. Faut-il, pour sauver le monde, abandonner la religion? Faut-il apostasier pour éviter à des innocents de souffrir? Le film s'ouvre sur une scène de torture d'une violence inouïe, des religieux ébouillantés puis décapités pour avoir refusé de renoncer. Douloureux pour le spectateur, nécessaire pour le réalisateur.
La religion est bien sûr au premier plan, mais j'avais envie d'aller plus loin. Tout ça pour moi renvoie à nos valeurs, à ce qui nous rend humains. Et toute ma vie, ce questionnement m'a accompagné. J'étais très pratiquant, puis j'étais dans le rejet. J'ai exploré d'autres pistes, pas très concluantes, et finalement, en vieillissant, c'est assez dur à décrire. L'âge aide à prendre conscience des choses qui filent. On revient aux fondamentaux, le temps qu'il nous reste, et ce qu'on en fait pour ses enfants, pour sa famille. Pour moi, c'est ça le sens de la religion. Les actes comptent plus que les paroles. Le respect, la compassion, ce n'est pas facile quand vous avez le ventre creux et que quelqu'un vient prendre vos terres. Mais pour moi, la plus grande révolution serait de se concentrer sur ce que nous avons à offrir aux autres. La bienveillance, la tolérance. Ça semble un peu utopique, on dirait une mauvaise chanson des années 70. Mais sérieusement, regardez où on en est aujourd'hui.
Voilà, vous nous le disiez, Corinne, c'est un film très dur sur la foi et la religion. Des scènes de torture, religieux battus et bouillantés, mutilés, noyés, décapités. Le supplice dure 2h40 et pourtant c'est un film indispensable selon vous.
Assez long mais indispensable, doté surtout d'un dialogue intérieur d'une grande richesse. Le point de vue du père joué par Andrew Garfield en voix off, son témoignage sur l'horreur, ses doutes incarnés avec beaucoup de justesse.
Il s'est préparé pendant pratiquement un an. Il est parti faire une retraite spirituelle de 30 jours chez les jésuites pour comprendre ce que ça représente dans la religion, la passion du Christ. 30 jours, c'est énorme. Je connais des comédiens qui n'auraient jamais tenu 10 jours peut-être, ou d'autres qui auraient dit au bout de 3 jours, je me casse. Nous avons travaillé avec un nutritionniste sur le tournage. Andrew a perdu près de 20 kilos. Adam Driver, lui, en a perdu 23, c'est dingue. Mais pendant les auditions, déjà, il m'avait bluffé. Et puis sur le tournage, quand on démarrait une scène, vous êtes toujours là, ok, on y va. Je me disais, où est Andrew? Quelqu'un a vu l'acteur? Il était concentré dans son coin, reclus sur lui-même. Et c'était le moment d'y aller, pas le temps d'échanger des politesses. Hello, ça va, bien dormi. Alors aujourd'hui, on va tourner telle scène. Non. Il fallait y aller directement. Pas la peine de dire action, il fallait conserver ça. Il n'y avait plus aucune frontière entre lui et son personnage, devant, derrière la caméra. Et ne pas manger a vraiment eu un impact. Sur une scène, par exemple, ils doivent ouvrir la porte de leur cabane. On démarre et je dis couper. Il ne l'avait pas fait. J'envoie quelqu'un les briefer, vous ouvrez la porte, oui, oui, on recommence, et rebelote. Et mon assistant David Webb me dit, en fait, je crois qu'ils ont faim. Et ce que vous voyez à l'écran, c'est vraiment ce qu'ils ont vécu.
Voilà, Silence, un film qui est important dans la carrière de Martin Scorsese, qu'il faut voir en étant concentré, le propos est dense, mais après tout, c'est l'aboutissement d'une vie entière de questionnement et de méditation.
The price for your glory is their suffering.
It's too dangerous.
We ask. Silence de Martin Scorsese dans les salles demain. Merci Corinne Pellissier, Annie El-Khatib, puis Vincent Giray. Calm Down, Annie El Khati, 18h54.
France Inter, le 18-20. Un jour dans le monde.
Et c'est l'édito de Vincent Giray du quotidien Le Monde. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Vous nous emmenez aujourd'hui dans le cyberespace où la guerre bat son plein, Vincent.
Oui Nicolas, depuis quelques temps déjà, nous avons dû réaliser que la cyberguerre n'était plus réservée aux romans de science-fiction. Elle constitue désormais une menace et plus encore une pratique inquiétante qui s'étend à très vive allure. Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a dû reconnaître que le nombre de cyberattaques dont était victime le ministère de la Défense doublait chaque année. Et qu'en 2016, le ministère avait dénombré, écoutez bien, 24 000 attaques informatiques externes, dont l'immense majorité fomentée de l'étranger. 24 000, j'ai compté, ça fait en moyenne plus de 65 par jour. Et nous ne parlons que du ministère de la Défense. Dans le cyberespace, aucune cible n'est à l'abri. Des ministères, des partis politiques, comme on l'a vu aux États-Unis pendant la campagne présidentielle, des médias et des entreprises en quantité. À chaque fois, ces attaques peuvent faire des dégâts considérables, se chiffrant à plusieurs millions d'euros ou de dollars. Et la singularité de cette guerre, c'est que l'ennemi est à la fois bien caché, protéiforme. Il peut s'agir d'individus, de groupes divers, mais aussi d'États via leurs services secrets ou les officines utilisées à cet effet, mais bien difficile à pister. En pleine transition Obama-Trump, la CIA avait ainsi accusé les dirigeants russes d'être à l'origine d'attaques informatiques répétées au cours de la dernière campagne présidentielle. En France, des groupes djihadistes ont l'an passé revendiqué des attaques contre des médias nationaux. On peut donc dire, en paraphrasant Clausewitz, que la cyberguerre est désormais la poursuite de la politique par d'autres moyens.
Et l'urgence, Vincent, c'est donc de se protéger.
Eh bien oui, et pour se protéger, rien ne vaut les exercices de simulation, grandeur réelle. Et pour vous donner une petite idée de ce à quoi ça ressemble, eh bien je vous emmène dans un centre de gestion de crise cybernétique à Vannes, à l'École nationale supérieure d'ingénieurs de Bretagne-Sud. Une reporter du Monde a pu assister à un exercice étonnant, réalisé pour une trentaine d'étudiants en troisième et dernière année de formation. Cible de cette cyberattaque, une infrastructure vitale, l'hôpital de Lorient. Soudain, la base des données de patients n'est plus disponible, alors qu'un patient est déjà dans le bloc opératoire. Il faut prendre des décisions rapidement, la vie de plusieurs patients en dépend, mais à peine quelques minutes plus tard, la direction découvre que les données médicales de plusieurs patients connus sont diffusées sur Internet et ainsi révélées au grand public. Dans une véritable ruche de 150 mètres carrés, les futurs ingénieurs sont répartis en fonction de leur rôle dans le scénario. La défense est installée dans une pièce dédiée avec des dizaines d'ordinateurs et quatre grands écrans qui diffusent en direct l'état du système informatique de l'hôpital. C'est ici que les étudiants tentent de répondre techniquement à la cyberattaque. Séparée par une porte, la cellule de management et la tête opérationnelle de cet ensemble, c'est elle qui doit prendre les mesures pour éteindre le feu numérique et le feu médiatique.
Et cet exercice, Vincent, est supervisé par un vrai général de l'armée française.
Et oui, Nicolas, l'exercice va durer une semaine et c'est un général passé par l'OTAN qu'il supervise. On est sérieux. On peut noter aussi que le directeur de cette formation cyberdéfense dans cette école d'ingénieurs est un ancien de la Direction Générale de l'Armement. Bref, le savoir-faire en la matière est d'abord militaire. Autant dire que ces jeunes ingénieurs n'auront aucun mal à trouver du travail, leurs CV s'arracheront dans le public comme dans le privé, et la France n'est pas le seul pays dans le monde à manquer de spécialistes de cybersécurité capables de protéger les systèmes informatiques et de prendre les bonnes décisions les plus rapidement possible en cas de blitzkrieg, c'est-à-dire d'attaque fulgurante. Voilà un domaine qui ne risque pas d'être frappé par la raréfaction du travail, Nicolas.
Vincent Giray du quotidien Le Monde, merci. À 19h20, le téléphone sonne sur un autre aspect de notre vie numérique. Les progrès stupéfiants des intelligences artificielles. Après les échecs, le jeu de Go, c'est désormais au poker que les êtres humains se font battre. C'est-à-dire un jeu où il faut bluffer, ruser, mentir, être fourbe. Jusque-là, nous avions le privilège de ces belles qualités, mais c'est fini. Les machines sont aussi retorses que les humains. Vertigineux, passionnant. Vos questions 01 45 24 7000. Le journal à suivre.